station. L'Orient met toujours en parallèle l'épiphanie, le baptême et la transfiguration. Ça fait partie de ces trois grandes révélations de Jésus. Jésus comme enfant. Jésus au point de départ de sa vie apostolique, donc comme l'envoyé du Père. Et Jésus annoncé à la croix comme l'accomplissement. Et un accomplissement qui unit la croix et la gloire. Puisque c'est le propre de la transfiguration, c'est d'unir la croix et la gloire. Et là, il y a quand même quelque chose de très important à monter. C'est ces trois grandes manifestations liées au mystère de la très sainte Trinité. C'est bien évident. Liées au Père, liées au mystère du Verbe. Mystère de l'Esprit Saint. Alors, on va essayer d'entrer un tout petit peu dans ce mystère de l'épiphanie. Qui doit être. Vous n'entendez pas bien? Oui, ça va. Parce que je ne me rends pas compte. C'est comme je vois des gens qui mettent la main derrière l'oreille, je me dis, ils n'entendent pas. Non, c'est l'inconvénient, n'est-ce pas? C'est qu'on ne se rend pas compte du tout. Donc, on est totalement dépendant.
Les sages de notre monde,
sont alertés par un phénomène physique. Très difficile de savoir ce que c'est que l'étoile des mages. On racontera toutes les histoires possibles et imaginables là-dessus. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont alertés par quelque chose d'objectif. L'objectivité, pour les savants, c'est nécessaire. Tandis qu'au contraire, les petits bergers, c'est une subjectivité magnifique de la musique. Du Gloria. Et d'aller à la rencontre de l'enfant Jésus. Tandis que les mages, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Et les mages suivent l'étoile. Ils se mettent en route. Découvrant qu'il y a là quelque chose à rechercher. La recherche des mages est très longue, comparativement à celle des petits bergers. Pour les intellectuels, c'est toujours très long. Quand le cœur s'y met, c'est très rapide. Les petits bergers, c'est leur cœur qui est pris. C'est leur cœur qui est pris directement par le message angélique, et puis qui est pris par Marie. Tandis que la recherche intellectuelle est toujours beaucoup plus longue. Il faut mépriser ni l'une ni l'autre, les deux nous sont damnés. En chacun d'entre nous, il y a un petit berger, du moins j'espère. Je crois que ça fait partie de la petitesse évangélique. Tant qu'on garde la petitesse évangélique, il y a toujours un petit berger en nous. Et puis il y a aussi en nous un mage qui pousse, et d'autant plus occupé qui pousse. Alors c'est la recherche, hein. C'est la recherche, il ne faut pas perdre de temps, il faut tout utiliser pour cette recherche, c'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long, c'est une. Il faut accepter du reste que ce soit comme ça. C'est très long, ordinairement, de convertir notre intelligence. Bon, je m'en aperçois tout le temps. Comme c'est long de convertir l'intelligence. On est. Alors quand on dit 4, 5 années, 6 années, on a son intelligence convertie. Ouais, pas du tout, ça repousse avec une rapidité extraordinaire. Une rapidité extraordinaire, si. C'est même affolant, parce qu'on se dit vraiment, qu'est-ce qu'on a fait pendant quelques années? Non, c'est bien, on a l'impression que ça coule. Je crois que c'est vrai que la conversion de l'intelligence demande qu'on soit toujours vigilant. Je crois que toute notre vie, on aura à convertir notre intelligence. Toute notre vie, on aura à convertir son cœur. Mais voyez, le cœur, la conversion du cœur et de l'affectivité, c'est beaucoup plus directement Dieu. On n'a qu'à recevoir, être des gens de bonne volonté, être suffisamment souple pour se déplacer, abandonner les brebis que Dieu nous a confiées, et puis aller dans le sens où il faut. C'est beaucoup plus rapide, parce que c'est Dieu qui agit directement, tandis que la conversion de l'intelligence est beaucoup plus longue, parce que Dieu n'agit pas seul, Dieu agit toujours avec nous, ou plus exactement, Dieu exige de nous d'agir avec lui. Très curieux, parce que l'intelligence est source d'autonomie. Elle est source pour nous d'être des personnes qui ont une certaine liberté et une capacité d'accepter ou de refuser. Tout le temps. On voit très bien quand la petite Thérèse dit « ôte-moi la liberté de t'offenser », c'est cette fameuse phrase de la petite Thérèse qui n'est pas théologique du tout, mais qu'on comprend très bien ce que ça veut dire. « Ôte-moi la liberté de t'offenser », c'est la petite Thérèse qui demande que son jugement lui soit enlevé pour qu'elle puisse obéir tout le temps. Elle avait compris à sa manière que la conversion de l'intelligence est une chose très longue. Et je crois que ça se refait tout le temps. Il y aura une petite crise après la formation. Pendant quelques années, on va faire attention. Parce qu'on croira que c'est fait. Maintenant, ça y est. Je suis bien orienté, pas du tout. Parce que ça repousse tout le temps. C'est extraordinairement vital, l'intelligence. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il s'agit des mages, on voit très bien la méthode que tu as servi. Hein, quelque chose d'un peu extraordinaire. On a besoin de l'inédit. Les intellectuels sont comme ça, ils se fatiguent d'entendre toujours la même voix. Ils se les sirènes. Non, les sirènes, c'est. Et les sirènes, ça prend des couleurs différentes. Et des tonalités différentes. Alors on sent très bien ça. Si vous ne l'avez pas déjà senti, c'est dommage. Vous le sentirez bientôt. Il faut les reconnaître assez vite pour ne pas dévier. Parce qu'autrement, on dévie. Les courants d'idées, c'est des sirènes. Les idéologies, c'est des sirènes. Les grèves sont téléguidées par les sirènes. Et ainsi de suite, vous voyez. C'est pas du réalisme, d'un manque de réalisme complet. S'ils s'aperçoivent pas que tout le monde paie les conséquences, ça peut pas être autrement. Alors, c'est pas réaliste, manque de réalisme. C'est tout le temps comme ça, les sirènes. C'est le manque de réalisme. Bon, c'est en dehors de la finalité. Quelque chose d'inédit, puis ça disparaît. On demande conseil. C'est déjà pas mal. Demander conseil aux théologiens, c'est pas si mal. Mais demander conseil aux théologiens, c'est un peu livrer ses secrets. Les mages ont livré leurs secrets, pas les bergers. Les bergers n'ont pas livré leurs secrets. Ils l'ont dit qu'à Marie. Et à Marie, ils avaient le droit de le dire. Tandis que dire aux théologiens, c'est jamais très sûr. Parce que les théologiens sont liés avec Hérode. Toujours un peu. L'autorité, le pouvoir. Les théologiens ont autorité. Point de vue de la recherche de l'intelligence. Puis le pouvoir, c'est Hérode. Hérode n'a aucune autorité. Il a un pouvoir terrible. Et là, on voit la confusion entre les deux. Parce qu'ils étaient. Ils ne savaient plus où aller. Ça arrive. Dans la vie intellectuelle, il y a des moments où on ne voit plus rien du tout. Alors à ce moment-là, on s'affole. On va trouver les théologiens. On oublie qu'ils sont liés avec le pouvoir. On s'affole. Il y a un moment d'affolement. Et tout Jérusalem était secoué. Ce qu'ils devaient. Ils devaient dire ce qu'ils avaient vu. Puis ça a repris. Donc ils sont fidèles à la recherche. Et ils ont découvert Jésus. Je crois que c'est cela qu'on doit essayer de comprendre dans la fête de l'Épiphanie. C'est pour ça que tous les ordres, toutes les congrégations qui ont un souci doctrinal doivent être attentifs à l'épiphanie. Et ils doivent fêter l'épiphanie d'une façon très particulière parce que ils doivent demander la grâce de garder toujours cette vigilance de la conversion de l'intelligence. Et que nous en avons tous besoin de convertir notre intelligence pour que nous puissions aller jusqu'au bout de ce que tu réclames de nous. C'est quelque chose de très grand, ça. La conversion de l'intelligence. Vous voyez, Nathanaël, c'est la conversion de l'intelligence, Nathanaël, hein, dans Saint Jean. Et pour chacun d'entre nous, cette conversion se fait progressivement, lentement. Faisons attention quand on demande conseil à des théologiens. Et reprenons vite, vite la ligne qui nous est demandée. Et alors, c'est curieux. Les bergers, on dit qu'ils savent des petits moutons. Mais vous croyez, on n'offre pas des petits moutons à un nouveau-né. Ça fait partie du folklore. Ils sont allés adorer, sont allés auprès de la Vierge Marie, dire leur affection. Tandis que les mages, ça on sait. Parce que ça, c'est l'intelligence. L'intelligence veut offrir à Dieu ce qu'elle aime le plus. Et je crois qu'il y a là quelque chose alors d'important pour nous. Il y aura un examen de conscience durant cette nuit et demain, durant l'Eucharistie. Demandez au Seigneur qu'est-ce qu'on doit lui offrir. Nous avons à offrir quelque chose au Seigneur. Si nous sommes des convertis quant à notre intelligence, et nous avons quelque chose à lui donner, l'or, l'encens et la myrrhe, et être prêt à faire cette offrande, être prêt le meilleur. On risque toujours, vous savez bien, de thésauriser. On risque toujours, surtout quand on aime quelque chose, de le garder pour soi. Je vous ai déjà dit, tout ce temps de Noël doit nous conduire vers la pauvreté. Alors, la pauvreté de Marie, elle est exemplaire. Marie, elle donne ce qu'elle est. C'est ça la maternité. C'est le propre d'une mère. Elle donne ce qu'elle est. C'est pour ça qu'elle se définit par sa maternité. Une maternité humaine demeure une fonction. Une maternité divine n'est pas une fonction. C'est pas quelque chose d'à côté. La maternité divine de Marie s'impose à Marie d'une façon telle qu'elle prend toute sa vie. À tel point que Joseph devient relatif à la maternité. C'est assez extraordinaire, ça. Ça, c'est unique. Ça ne se passe jamais comme ça dans les familles chrétiennes ou les familles tout court. Tandis que quand il s'agit de la Sainte Famille, la maternité de Marie est telle, maternité contemplative, qui prend tout en elle et qui définit Marie. Son mystère de l'Immaculée Conception est ordonné à sa maternité. Je crois qu'on doit même dire ça. Son mystère de l'Immaculée Conception est ordonné à la maternité. Tellement la maternité est quelque chose de si grand. C'est pour qu'elle soit pleinement la mère qu'elle est immaculée. Et sa maternité divine enveloppe tout le mystère de Jésus, toute sa vie. Parce que c'est une maternité contemplative. Alors, elle augmente tout le temps jusqu'à la croix. À la croix, elle atteint un sommet. Et ce sommet est tel qu'il faut qu'elle meure dans son cœur de mère pour grandir encore dans sa maternité divine. Et sa maternité divine va grandir à travers cette maternité spirituelle et Marie de plus en plus. Elle est, j'allais dire, d'une pauvreté qui la saisit pleinement jusqu'au bout. Qui la saisit entièrement. Elle est la mère la plus pauvre qui soit. Et cette pauvreté, c'est pour qu'elle puisse se donner. Marie n'a rien à donner en dehors d'elle-même. C'est peut-être ça le comble du pauvre. C'est de rien avoir à donner en dehors de soi. Et ça, pour Marie, ça me semble très très net. Mais si vous prenez les catégories être et avoir, c'est très net. Marie n'a rien. Mais elle est la créature la plus parfaite qui existe dans sa maternité. C'est sa manière d'être. Elle existe dans sa maternité. Et parce que sa maternité touche le mystère même de la très sainte Trinité. Et c'est tout elle-même qui est dans cette espèce de pauvreté. C'est pour ça que les mystères de Noël nous poussent tellement vers la pauvreté. Ça va en soi, pauvreté et joie. Une joie encore une fois très très intérieure. Mais une grande joie. Tout intérieur. Ce qui me semble très différent, c'est la pauvreté de Joseph. Et c'est la pauvreté des mages. Et la pauvreté des bergers. Mais tout autour de Noël est baigné dans cette pauvreté. Et c'est cette pauvreté qui fait le lien entre tous ces mystères si différents. La pauvreté de Joseph, elle est facile à comprendre. Il garde l'autorité n'ayant aucun droit. Donc sans aucun pouvoir. Mais il garde l'autorité, une autorité extraordinaire, une autorité qui est apparentée à l'autorité du Père. Et il est complètement dépouillé comme époux. Il a fait le sacrifice, au sens très très fort, de ses liens avec Marie. Et ces liens avec Marie, il les a offerts. Au moment même où, j'allais dire, ce lien de fiancé commençait à exister. C'est d'autant plus difficile. C'est la première jeunesse, la première pousse de printemps. C'est très difficile à sacrifier, ça. Au bout de 10 ans de mariage, beaucoup d'époux accepteraient certains sacrifices. Tandis que là, dès le début, fiancé à Marie immédiatement. Mais c'est dans l'espérance, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur. C'est l'espérance elle-même de son cœur d'époux qui doit être offert. Ça, c'est la pauvreté de Joseph. C'est une pauvreté très radicale. Et cette pauvreté qui fait le lien avec Marie, qui lui permet de demeurer l'époux de Marie, malgré le mystère de l'Annonciation, grâce au mystère de l'Annonciation. Le mystère de l'Annonciation aurait pu être vécu comme une brisure, et le mystère de l'Annonciation a été vécu comme un lien nouveau. Ça, c'est très très beau. Et seuls les pauvres peuvent comprendre ça. Certains événements qui peuvent être des ruptures, qui peuvent être interprétés comme des ruptures, et qui peuvent être interprétés au contraire comme des moyens divins pour aller plus loin. Et pour Joseph, le mystère de l'Annonciation a été traduit de cette manière-là, comme un moyen divin pour aller plus loin. Mais il y a eu un moment où il s'est demandé, non pas comme une tentation à laquelle il succombait, mais si c'était la volonté de Dieu. La pauvreté de Joseph à Noël doit être une pauvreté, non seulement dans son cœur d'époux, mais dans son cœur de père, à l'égard de Marie et à l'égard de Jésus. Il doit être là, gardien, enveloppant le mystère de la Sainte Famille et permettant au mystère de la Sainte Famille d'être vécu jusqu'au bout. Je crois que ça, c'est aussi le beau, vous voyez. Le beau, c'est celui qui permet que certaines choses se fassent sans rien faire du tout. Et que tout se fasse en sa présence, comme s'il était l'acteur et qu'il n'y ait rien du tout. Parce que nous aimons faire des choses, nous aimons réaliser quelque chose. C'est très très difficile de regarder une œuvre qui se fait sans qu'on ait rien fait du tout. Alors que normalement, on aurait dû être là et coopérer. Et que tout le monde nous considère comme coopérants. Donc là, il y a une espèce de pauvreté extraordinairement profonde. Et une pauvreté à la fois d'époux et de père à l'égard de l'enfant Jésus. Vous voyez, je crois que pendant tout le temps de Noël, il faut être très attentif à la pauvreté de Joseph. Ça nous aide, oui. Parce que dans la vie commune, il y a beaucoup de ce genre de pauvreté. Et nous érigeons tout de suite nos droits. Ça, c'est évident. On est terriblement sensible à nos petites charges. Et alors, les droits poussent avec une rapidité extraordinaire. C'est. Et on est terriblement sensible à ça. Et on a une peine énorme d'être pauvre dans la fonction que Dieu nous demande. Et d'accepter que les choses qui devraient se faire avec nous se font sans nous. Par l'intermédiaire de quelqu'un qui n'a rien à faire avec ça. Et quand c'est le Saint-Esprit, c'est encore mieux, tu vois. Parce que c'est invisible. Et ça exige cependant de continuer en disant mais oui. Et de se taire. Et de garder le silence. Parce que garder le silence est encore une pauvreté. On aime tellement raconter ces petites histoires. Et raconter ces histoires, c'est chercher toujours un petit peu de gloire. Tandis que garder le silence, le plus total qui soit, sans aucune espèce d'amertume. Il n'y a pas d'amertume dans Joseph. Parce que l'amertume dans Joseph, ce sera un manque de pauvreté. Il n'y a aucune amertume. Il y a au contraire une grande joie. devant Jésus. Il est là, celui qui est relatif, acolyte. Il accompagne. Il est là pour cacher et garder dans le sens très fort. Vous voyez la différence entre la pauvreté de Joseph et la pauvreté de Marie. La pauvreté de Marie, c'est dans son être de mère. La pauvreté de Joseph, c'est juste l'inverse. C'est sa fonction d'époux. C'est dans sa paternité où il doit accepter d'être très pauvre. Alors ça touche son être aussi, puisque ça touche sa paternité. Et en touchant sa paternité, ça, il rejoint Marie là, mais indirectement, pas de la même façon du tout. Vous avez la pauvreté des petits bergers. Ils sont disponibles de leur temps. Ça, c'est le propre des bergers. Hein. Quand vous n'êtes pas disponible de votre temps, rappelez-vous la disponibilité des bergers. Être disponible de son temps, ça a d'immenses avantages. C'est que on peut alors être docile à ce que l'Esprit Saint réclame. Et être toujours prêt à suivre l'inspiration de l'Esprit Saint. La pauvreté des mages. Alors là, nous entrons dans cette pauvreté des mages. Ça consiste à donner ce qu'ils ont de plus précieux. Je crois que c'est ça, la pauvreté des mages. Ce sont des travailleurs, les mages. Des travailleurs intellectuels. Ça nous va très bien, ça. Travailleurs intellectuels, ceux qui ont pris des quantités de choses, ont appris. L'étoile les déloge, leur oblige de quitter leur lieu pour aller offrir à celui qui est annoncé, ce roi. Offrir ce qu'ils ont de plus précieux, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors, c'est là où il faut découvrir à travers du reste tous les pères de l'Église qui ne cessent de regarder ce symbolisme de ces dons. Vous voyez la différence avec l'Eucharistie. Très très joli de mettre la comparaison avec l'Eucharistie. Ce qu'on voit très bien, c'est les grands de la terre, les grands du côté de l'intelligence. Et ceux qui savent qu'ils représentent la contemplation philosophique, scientifique de leur temps. Ils vont auprès de l'enfant Jésus pour offrir ce qu'ils sont de meilleur. C'est vraiment l'avoir, l'offrande de l'avoir. Et par là, il nous montre ce qu'est Jésus. Il est celui qui reçoit ses dons. Il est celui qui reçoit ses dons parce qu'il est l'envoyé du Père. Il y a en Jésus, malgré sa petitesse, sa fragilité, il y a en Jésus quelque chose d'unique que les mages découvrent. Et que les mages savent découvrir dans leur contemplation. Ils l'ont emporté, donc c'était avant le passage à Jérusalem qu'ils avaient ces présents et qu'ils voulaient donner ces présents. C'est très émouvant, ça. Et ceci, ça a dû toucher le cœur de l'enfant Jésus. Cœur de Marie, le cœur de Joseph, l'or, l'encens, la myrrhe, offrir à Jésus ce qui est le plus précieux. Alors c'est pour ça que l'or prend des modalités pour chacun d'entre nous. On offre à Jésus. le plus. Ça fait partie de l'or, le trésor de notre cœur. Le trésor de notre cœur, c'est celui qu'on aime le plus, celui qui est le plus proche de nous, celui qu'on sait, qui est intimement lié à nous. On peut offrir son ami à Dieu et à Jésus. On peut offrir une amitié à Jésus. On ne peut pas l'offrir à une autre personne humaine, mais à Jésus, c'est possible. Mais c'est pas notre être, mais c'est une richesse incomparable. C'est beaucoup plus qu'une valeur. C'est quelque chose qui nous touche. On peut offrir à Jésus une recherche intellectuelle. Ce que saint Thomas faisait si facilement. Quand il présentait à Jésus son manuscrit sur l'Eucharistie, qu'il le mettait près du tabernacle, en demandant à Jésus de prendre ce manuscrit, de le détruire s'il y avait des erreurs, et de le prendre sous sa protection si c'était conforme à son désir. C'est merveilleux l'offrande du théologien ou du philosophe. Offrir à Jésus ce qui, dans notre recherche actuelle, nous touche le plus à cœur. Il peut y en avoir plusieurs, plusieurs petits sentiers. Et offrir à Jésus, l'offrir vraiment, c'est plus à nous. Ça ne nous appartient plus. Parce que on a toujours, toujours ce sens quand on découvre quelque chose. Certains droits de propriété qui est tellement développé chez les chercheurs. Vous savez bien, les conseils de chercheurs, c'est extraordinaire dans ce domaine-là. Si vous avez découvert quelque chose, ne faites pas paraître tout de suite cet article, de peur que quelqu'un d'autre l'utilise et l'exploite avant vous. Oui, j'ai entendu ça plus d'une fois. Alors qu'on aurait spontanément dit ça, mais oui, tant mieux, c'est la vérité que tout le monde s'en occupe. La vérité, la sagesse se communique sans envie. Et donc si quelqu'un peut s'en servir plus que moi, tant mieux. Alors, au point de vue de la recherche, de l'honneur qu'on cherche à cause de la découverte, dit, ah, ne faites paraître votre découverte que lorsque vous l'aurez parfaitement exploitée. Pour être sûr que personne d'autre ne s'en serve avant vous. C'est terrible ça. Et ça, je crois que c'est très ancré dans notre intelligence. On n'aime pas de livrer ce qu'on aime le plus. Sa découverte. Ses petites découvertes ou ses grandes découvertes. Et c'est un manque de pauvreté de garder ça. On ne peut offrir son intelligence qu'à Jésus. Mais on doit l'offrir à Jésus. Son intelligence avec tout ce qu'elle est capable de découvrir, toute sa capacité de contemplation, sa capacité de recherche. Vous voyez les deux aspects, hein. L'ami, la vérité. On doit les aimer tous les deux. L'ami et la vérité. Et ça fait partie de l'or, ça. Ça, c'est bien évident. Avoir de très bons amis, c'est merveilleux. Aimer follement la vérité, c'est encore plus merveilleux. C'est encore plus grand. Et la découvrir nous-mêmes, grâce à l'Esprit Saint qui nous éclaire, c'est très grand. C'est très grand de recevoir la vérité, mais c'est encore plus grand de la découvrir. Il faut la recevoir pour la redécouvrir. Je crois que c'est très important, ça. Et l'épiphanie doit être pour nous la fête où, de fait, on offre ça à Jésus. Là, on sent. Jésus est roi. Jésus est roi d'une manière tout à fait particulière. C'est une royauté. Jésus-Christ. C'est important pour nous de comprendre cela, surtout pour nous, si nous avons un désir de découvrir toujours plus profondément le mystère du sacerdoce de Jésus. Encore. l'encens, la myrrhe. Alors la myrrhe, ça prend des modalités très différentes. Comme du reste l'or. La myrrhe, ça peut être des souffrances très cachées. Des souffrances que personne ne connaît et que nous portons quelquefois seuls avec Jésus, avec Marie. Peut-être cette espèce d'aridité terrible que nous pouvons éprouver dans notre vie religieuse. Ça peut être ces blessures quotidiennes de la vie commune. Du même pas, vous savez. Nous avons toujours à côté de nous celui qu'on aimerait qu'il soit très très loin et qu'on ne voit plus. Ça existe, ça, dans la sensibilité. Et justement, la providence fait qu'on se retrouve tout le temps. C'est la pire, ça. Tout ce qu'il peut détruire. Il faut aller vite.